Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour aux grandes voix Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carreau et Charles Villeneuve.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour.
Émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle précède la cérémonie d'investiture du président de la République. Dans une heure, Thierry Dagiral, les correspondants, les envoyés spéciaux d'Europe 1, les invités suivront jusqu'à 13h la reconduction d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et aux Invalides, nous dans les grandes voies, nous prendrons la température dans un instant à l'Élysée. Nous évoquerons le climat dans lequel Emmanuel Macron repart pour un second quinquennat. Va-t-il être très différent comme il l'annonce? Quelles réformes sont sur la table? Et surtout avec Renaissance, est-il un François Ier voulant marquer son temps? Et si oui, avec quelle majorité? La coalition baptisée sobrement Ensemble n'est-elle pas un jeu d'échecs dangereux? Les alliances justement à gauche, le PS a finalement entériné l'accord proposé par la France Insoumise pour une Union populaire, aussi avec Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Populaire, pas tant que ça quand on voit les dissidences de certains historiques du PS. Carole Delga va en guerre et propose des états généraux de la gauche pour que ne soient pas, dit-elle, anéantis les valeurs du socialisme. Où va-t-on comme ça? Et tandis que les Français retrouvent leur président pour un nouveau mandat, un recordman de longévité présidentielle continue de faire la guerre à l'Ukraine. Lundi 9 mai, que va faire Vladimir Poutine? Les diplomates occidentaux rabattent les cartes dans tous les sens, tandis que Volodymyr Zelensky peut compter sur un soutien sans faille des États-Unis. Le conflit ukrainien va-t-il devenir le théâtre d'une guerre frontale entre Washington et Moscou, voire entre Biden et Poutine? Nous le verrons, vous avez le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Je le disais, émission spéciale de 11h à 13h tout à l'heure pour la cérémonie d'investiture du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On va faire un petit tour par l'Élysée, justement, prendre la température à moins d'une heure de cette investiture. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 est en direct de la cour de l'Élysée. Bonjour Jacques.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Avec des invités qui commencent à arriver.
Oui, ça y est, le grand portail du palais de l'Élysée est ouvert désormais et l'Élysée, comme les premiers invités commencent à arriver. Ils foulent ce petit tapis rouge installé sur le perron. Ce n'est pas le grand tapis rouge des passations de pouvoir puisqu'il n'y a pas de passation et que c'est une cérémonie d'investiture, une cérémonie de réélection. Alors ici, parmi les invités, il y a un certain nombre de maires, puisqu'Emmanuel Macron a tenu à inviter les maires des villes dans lesquelles il s'est rendu, notamment pour le grand débat au moment des gilets jaunes. Il y a aussi un certain nombre de personnalités du monde médical, des soignants, une classe de collégiens également, et puis évidemment toutes les personnalités du monde politique, les ministres, les membres du gouvernement qui sont attendus ici. La cérémonie d'investiture va débuter tout à l'heure à 11h dans la salle des fêtes de l'Élysée par la proclamation des résultats. C'est ainsi que ça va commencer, la proclamation des résultats par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel.
Merci Jacques Serret. Jacques, on retrouvera en fin d'émission avec Arthur Delaborde à l'Élysée pour évoquer cette passation de pouvoir. Le président Macron qui fait peau neuve, nouveau quinquennat, nouvelle majorité, recomposition avec La République En Marche qui devient Renaissance, nous emprunté quand même, faut le rappeler, pour les régionales d'il y a 3 ans. Quel est l'objectif de cette majorité? Est-ce qu'on veut se débarrasser de toutes les casseroles, les anciens événements pas très heureux de l'ancien quinquennat? Comment est-ce que vous voyez ça, Gérard Carreau?
Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du président, on le saura dans un certain nombre de minutes.
Ce n'est pas la question que je pose, Gérard.
Non, mais j'ai bien compris. Mais c'est d'abord ce qu'il y a dans la tête du président qui conditionnera ce qu'il y aura dans la nouvelle majorité telle qu'elle est. Parce qu'on sait très bien que tout procède, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de voir ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Tout procède du président de la République. Nous sommes en 5e République et ce n'est pas avec le président Macron que ça va changer. Donc, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il dira... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va dire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais d'important. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelque chose d'important. Il a été réélu sans que ça apparaisse. C'est apparu aux gens comme... quasi-banalité.
Vous voulez dire que les mots qu'il va prononcer là sont très importants, il va falloir être attentif.
Absolument, parce que jusqu'à présent, tout le monde l'a dit, sans a priori, tout le monde a dit, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas l'enthousiasme, il y a un côté déjà vu. Et il faut qu'il casse aujourd'hui en nous disant ce qu'il va faire. C'est pour ça que je vous dis, avant de vous répondre sur la majorité, je vous réponds sur lui.
Catherine Ney.
Il y en a d'autant plus besoin que lorsqu'il a été élu et qu'il est venu... devant la Tour Eiffel, faire un discours, lui qui parle tout le temps, qu'on ne peut pas arrêter. Il a parlé à peine un petit quart d'heure et ça avait l'air de dire « je me débarrasse d'une formalité ». Et les gens qui étaient là, il n'a rien dit. C'était quelque chose qui n'était pas construit. Alors, peut-être qu'il était fatigué et tout ça. Bon, là, aujourd'hui, ce qu'on lui demande, alors on dit que ça sera un discours sobre, pas long, mais est-ce qu'il est capable de faire court? On va le voir. Mais c'est vrai, Gérard a raison, il faut qu'il donne une ligne, je ne sais pas, un élan. Et ça sera d'autant plus difficile pour lui que, quand on voit les sondages, vous voyez, sa cote de confiance est à 35. C'est-à-dire que par rapport à son élection oui. il y a 5 ans, où il était à 45%, il est à 35. Bon, c'est un socle solide. Donc, mais là, il faut bien qu'il dise quelque chose, un espoir, enfin... Je ne sais pas. C'est un exercice très difficile.
Charles Villeneuve.
Moi, je crois qu'il a tout dans la tête depuis le départ, y compris le nom de sa première ministre ou de son premier ministre. Et que, justement, si on s'inspire de tous les chefs d'État qui l'ont précédé, et notamment de Gaulle, de Gaulle, lui, avait fait un discours extrêmement précis. Et de la même manière, je pense que Macron fera, et je suis d'accord avec Gérard.
Tu ne peux pas comparer les deux personnages, quand même.
Non, mais je ne compare pas. Je compare simplement oui. sur ce qu'il a dans la tête.
Oui, oui.
Bon. Et je pense qu'il a tout dans sa tête.
Peut-être.
Et je pense que toutes les spéculations sur, notamment celles qui ont été contactées ou pas, d'après mes informations, aucune n'a été contactée par l'Élysée proprement dit. Donc, tout... Et évidemment, il a ouvert la spéculation. Mais je suis d'accord avec Gérard en disant qu'il faut qu'il dise quelque chose et d'extrêmement précis, et notamment qu'il donne le ton de son quinquennat.
Et voilà. C'est pour ça que la deuxième...
Michel Cotta, alors qu'on voit arriver Jean-Pierre Raffarin et Geoffroy Roux de Bézieux dans la cour de l'Élysée.
Recommencer un mandat, c'est toujours plus difficile finalement que commencer. Et moi, je me rappelle que... En 88, il y avait eu à peu près les mêmes dispositions pour François Mitterrand, qui avait fait une déclaration assez simple, là aussi assez réunifiante, après l'opposition avec Jacques Chirac, de son dernier débat avec Jacques Chirac. Donc c'est quand même plus difficile, mais on attend quelque chose. Voilà. C'est plus difficile, mais on attend qu'il dise... Et ça, il ne l'a pas dit effectivement avant. Dans quelle perspective, s'il peut savoir quelque chose en pleine guerre. C'est important.
Tu parles de François Mitterrand ou de Jacques Chirac. C'est vrai qu'ils ont été réélus, mais après deux cohabitations. Bon. Et quand, en 88, le miracle de la réélection de François Mitterrand, qui parlait de France unie, d'ailleurs, comme le président actuel, il avait demandé aux électeurs de ne pas lui donner une majorité trop socialiste, parce qu'il en avait marre des socialistes. Il venait de se les farcir pendant trop d'années. Et donc, il a été exaucé, il a été égoutté, il avait une majorité relative. Et donc, il a fait un premier gouvernement rocard, qui avait 17 ministres qui n'étaient pas socialistes. Mais c'était des ministres qui sont arrivés comme des voyageurs sans bagages, parce que ce n'était pas un accord de gouvernement avec eux. Ils avaient une valise. Le seul avec qui, c'était Jean-Pierre Soisson aux affaires sociales, qui était le plus calibré, qui avait le plus de passé politique, le plus d'expérience. Mais tout ça, moi, je ne vous citerai même plus de noms de ces 17 ministres. Mais enfin, donc, il est venu avec une autre idée. C'était un deuxième septennat. Il était déjà fatigué. Il ne voulait plus des bagarres à l'intérieur des socialistes.
Gérard Carreau.
Je vais résumer ça de manière simple. Il est le président élu, et bien élu, d'un pays qui est cassé, non pas en trois morceaux, comme on répète ça tous les jours, mais en quatre morceaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, le quatrième morceau, c'est les 30% qui n'ont pas voté ou qui ont voté blancs et nuls.
Absolument.
Donc il y a quatre morceaux. Il faut savoir si ce président est déterminé à ne s'adresser qu'à deux morceaux sur le quatre, c'est-à-dire à son électorat, à ses 28% du premier tour, et éventuellement à ceux qu'il courtise depuis le deuxième tour, c'est-à-dire aux mélenchonistes, ou bien s'il s'adressera aux 40%, aux 40 et quelques pourcents qui restent. C'est-à-dire... Non, mais c'est important. Jusqu'à présent, il n'a pas donné une impression de s'intéresser aux autres. C'est-à-dire, les autres, c'est une petite moitié de la France, mais c'est quand même presque une moitié.
Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de... Un passage obligé, en quelque sorte, quand on est réélu, ou élu d'ailleurs, de dire, à partir de maintenant, je vais faire l'unité. Et au fond, je ne connais que Jacques Chirac, qui a son deuxième mandat, après son dernier mandat, après son premier mandat, a dit qu'il maintenait la gauche et la droite, et qu'il ne faisait pas un grand groupe social, donc un grand groupe central. Donc quand même, c'est vrai qu'on attend on attend de Macron aujourd'hui quelque chose qui dessine autant que faire se peut la France de demain et ses trois projets, ses trois premières réformes pour
les changements. Justement, les alliances, on va en parler. On marque une pause publicitaire et on revient juste après. On va parler justement de Renaissance et de cette alliance dans la majorité qui s'appelle Ensemble, tout simplement. 10h18 dans les Grandes Voix.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h-11h. Pierre de Villeneuve.
À 40 minutes de l'investiture d'Emmanuel Macron, grande cérémonie à l'Élysée qui commence avec les invités qui continuent de défiler, qui arrivent dans la cour de l'Élysée. Nous sommes dans les Grandes Voix avec Catherine, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Charles, vous vouliez parler du dispositif militaire qui est une indication en ce jour très particulier.
Oui, une indication politique d'ailleurs. C'est lui qui a choisi tous les éléments qui composent le dispositif militaire qu'il ira rejoindre après son discours, après avoir salué ses invités. Il ira donc serrer la main notamment de tous les chefs d'état-major, absolument. Il y a d'abord un dispositif comprenant la Légion étrangère pour l'intégration, puisque c'est là où, de toute façon, la Légion aujourd'hui comporte 148 nationalités, et tous ceux qui ont porté la main du capitaine d'Anjou pour la bataille de Cameroun, il y avait une composition extraordinaire de plusieurs religions.
Le général Puga qui arrive en ce moment à l'Élysée.
Le grand chancelier. Ouais. Ensuite, il y a un dispositif de la composition d'un bateau, le Monge, qui est intercepteur des trajectoires des armes nucléaires tactiques. Ça, c'est un signe par rapport à la guerre en Ukraine. Et puis, il y a évidemment un autre dispositif. Dans ce dispositif militaire, il y a tout est indiqué par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, aussi bien politique qu'internationale.
Donc à suivre, absolument. Alors, dispositif militaire, dispositif politique avec Renaissance. Qu'est-ce qu'on pense de cette Renaissance et de cet ensemble, d'ailleurs, qui compose Renaissance, le MoDem et Horizon.
Qu'il a été assez difficile à constituer.
Michel Cotta.
Qu'il a été assez difficile à constituer. Effectivement, on a bien suivi depuis le début. C'était la
quatre
volonté.
Jours, 4 jours, 4 nuits.
Voilà, 4 jours, 4 nuits, sous la houlette
c'est
du
beaucoup,
président.
C'est beaucoup, 4 jours, 4 nuits.
Pour ceux qui le font, oui.
Oui, sous la houlette du président. Il faut demander au président de l'Assemblée nationale comment ça s'est passé, parce que c'était relativement difficile. Mais surtout, le but, c'était, au début, on voyait bien que le but de Macron, c'était quelque chose d'unique, un parti unique. Oui. Bon, ben ça, franchement, là-dessus, il a dû reculer. C'est intéressant, parce que c'est... on peut dire qu'il y a
vous faites une différence entre parti unique et coalition unique.
Ah, tout à fait.
Oui. Non,
d'ailleurs,
mais je pose la question de façon candide.
Font,
arrêtez de me
eux-mêmes en font un. Eux-mêmes, Édouard Philippe ne voulait pas d'une coalition. Et d'ailleurs, François Bayrou non plus. Il a son MoDem qui marche. Et quant à Édouard Philippe, il voulait son parti avec un certain nombre, avec un certain nombre de députés. Et donc, on lui a donné l'équivalent. Enfin, il pourra présenter 45 députés. Donc, ça veut dire qu'il va être à la mesure de faire un groupe. Et ces trois groupes, en principe, moi, je trouve ça plus intelligent quand même que ce soit trois groupes autonomes qui puissent chacun intervenir ou donner quelque chose, plutôt qu'un grand coup, un grand concentration de gens n'osant pas dire rien face au président de la République.
Non, mais pour Édouard Philippe, là, je veux dire qu'il rêve de faire de la politique, et ça, après tout, c'est légitime. Il est la personnalité la plus populaire auprès des Français, y compris auprès des électeurs d'Emmanuel Macron. Alors, et on ne comprenait pas pourquoi Emmanuel Macron, bloqué, a empêché la fusion de son parti, parce qu'il a dans son parti beaucoup de maires, mais il n'avait pas de députés, et il pensait le groupe Agir, dont certains lui étaient
Franck
d'accord,
Riester.
De Franck Riester. Et je crois qu'au dernier moment, c'est...
Tiens, ben le voilà qui arrive dans la cour
d'Élysée, Macron, Philippe. Emmanuel Macron a bloqué cette alliance. Bon, là, maintenant, on lui donne un groupe, et c'est quand même normal qu'il puisse s'exprimer parce qu'il est capable, pendant la campagne, même de rallier des électeurs à Renaissance. Enfin, voilà, il faut utiliser une arme qui est importante pour le président.
Gérard Carrérou.
Oui, alors je vais faire un peu ce que Charles Villeneuve faisait en termes des militaires, en disant ça donne des indications. Alors, je vais les regrouper un peu comme des troupes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle majorité pour demain ? Il y a d'abord, effectivement, une espèce de... C'est l'infanterie. L'infanterie, c'est-à-dire les 400 et quelques députés espérés pour remplacer ceux qui n'ont pas été extrêmement.
Il y en avait 328
extrêmement bruyants. Non, mais je parle de ceux qui doivent se substituer aux 300 et quelques de la dernière fois qui n'ont pas marqué, qui n'auront pas marqué la République, on peut dire, à part quelques-uns. Oui. Hein, par deux, peut-être une douzaine.
Surtout des femmes, d'ailleurs.
Hein, une douzaine de femmes de bonne qualité. Pour le reste, les autres, on les aura déjà oubliées. Donc, mais c'est quand même les gros bataillons. Et puis, il y a deux ailes qui auraient dû être, qui devraient être des ailes plus marchantes dans cette armée. L'aile du Modem. Alors évidemment, l'aile du Modem, elle va probablement croître un petit peu, celle de de Bayrou. Mais Bayrou, il a un handicap, c'est l'orphelin de Matignon. Oui, il avait toutes les possibilités, toutes les envies.
Il est toujours candidat.
Oui, il est toujours
candidat.
C'est l'éternel candidat et ça sera l'éternel dauphin qui ne ira jamais à Matignon. Mais bon, il sera quand même là et il a de temps en temps des idées intéressantes.
C'est le dauphin qui a fait le roi. Quand même.
Voilà. On a l'arrivée et de puis, Jacques Lang qui a fait le roi la première fois. Une sorte de châle rose et puis, sur l'épaule et Madame Bachelot tout en vert.
Il reste Édouard Philippe. Oui. Édouard Philippe, on a spéculé déjà beaucoup sur les animosités, les petites jalousies qu'il y a eu entre le chef de l'État et son ancien Premier ministre. Il semblerait qu'il y ait eu une sorte de réconciliation. Il a toutes les qualités de leadership, on peut dire, et les qualités même devant l'opinion. Il est encore très populaire, pour être un peu l'un des moteurs de cette... Ce qui manquait à la majorité de la dernière fois, c'est les moteurs. Hein, les moteurs étaient des diesels et pas des moteurs à boxe.
On peut pas dire que le moteur ne peut venir que des deux ailes, que des deux autres. Le moteur, il doit, sous la Ve République, venir d'Emmanuel Macron. Donc ce sont des moteurs subsidiaires.
Catherine et ensuite Charles.
Oui, mais enfin, Emmanuel Macron se vantait d'avoir une majorité qui était des amateurs. Bon, mais on a vu que quand même, ça ne lui a pas servi. Parce que si on change aussi le sigle En Marche, c'est que En Marche, ça a été une période, c'était une marque, ils ont pris une claque au municipal, au régional, ils n'ont pas. Donc, il vaut mieux changer. Mais Renaissance, alors, quand c'était En Marche, on pouvait appeler les gens les marcheurs. Mais Renaissance, comment on va les appeler? Les Renaissances, alors Renaissance, ça veut dire reborn, comme
born
on dit aux
États-Unis.
Alors on va les appeler les René,
les nouveau-nés.
Les nouveau-nés. D'accord. Ah, tiens, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, c'est un nom un peu. Mais enfin, c'était sous ce vocable, enfin, cette appellation. Qu'avaient été organisées les élections européennes qui ont bien marché.
Moi, je crois que l'objectif du président de la République en composant justement cette confédération, un des trois, c'est de pour garder la main. Et comme il l'a assez ferme, la main, je pense qu'il jouera des personnalités. Parce que ce qui est intéressant d'abord, c'est une personnalité, Macron. Tu en conviendras.
Ah ben, tout à fait.
Et Gérard, ce que Gérard a expliqué, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de différence programmatique réelle entre les trois composantes de cette confédération. Mais il y a des personnalités. Édouard Philippe, c'est une personnalité. Bayrou, c'est peut-être l'orphelin, finalement, à vie, mais c'est une personnalité. Et puis, qu'est-ce qui reste encore, à part le Modem et à part Horizon d'Édouard Philippe, il reste En Marche. Alors, En Marche, il y a plein de jeunes qui se bousculent, notamment Attal, etc., qui se présentent d'ailleurs à la... Le maire qui ne se présente pas. Que va faire le maire qui a une personnalité?
C'est le mystère, le maire. C'est le mystère, le maire.
Oui, parce qu'il a laissé une longue lettre sur les réseaux sociaux. Que va faire Bruno Le Maire? Bon, enfin, ça, c'est un autre chapitre. Dans un instant, on parle de l'alliance à gauche. Tandis qu'arrive l'ambassadeur de Belgique, Guillaume Gallienne, Eric Woerth qui pianotait sur son téléphone. Bref, la cérémonie est en route. 10h29 sur Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et les invités qui continuent à déambuler dans la cour de l'Élysée, on a vu Patrick de Carolis, on a vu Jacques Attali, on a vu Jack Lang, plein de gens qui arrivent en ce moment alors qu'on parle avec les grandes voix des alliances. Alliance dans la majorité, on vient d'en parler, alliance dans l'opposition. Si les LR et le RN pour l'instant sont en mode silence radio, l'alliance de la semaine c'est bien entendu à gauche avec cet accord entre LFI, Europe Écologie Les Verts, le PC et le PS. Alors souvenez-vous pendant la campagne, une phrase qui revenait souvent... C'est d'ailleurs Gérard qui avait l'habitude de la dire, quand ça veut pas, ça veut pas. Et bien là, même si le vote est passé à gauche à 62% des voix, le fait que très tôt déjà, les historiques du PS, Le Foll, Cambadélis, Cazeneuve, disaient non à cet accord, le fait que Carole Delga, encore ce matin dans Le Parisien, propose des états généraux après une mobilisation des militants qui refusent la liquidation du PS, c'est la continuité du « quand ça veut pas, ça veut pas », ma chère Michèle Cotin.
Je crois qu'il faut bien voir l'évolution réelle hein, du Parti socialiste. On ne comprend rien à, à ce qui s'est passé si on n'a pas en tête deux éléments. La première, une sorte de génie, en tout cas de savoir-faire de Jean-Luc Mélenchon, qui connaît très bien le PS puisqu'il lui a, il a appartenu et, qu'il a, et qui a une haine particulière maintenant pour tout ce que représente François Hollande et le côté, au contraire, socialiste, rester socialiste. Bon, on ne comprend rien si on n'a pas en tête ce personnage-là, qui joue le tout pour le tout, qui sait très bien qu'il ne sera pas Premier ministre, mais qui quand même joue le jeu de Premier ministre. Ça, c'est le point. Et le deuxième point, c'est qu'au fond, je dirais que on peut regretter, on peut trouver ça complètement anormal, que l'accord se soit fait sur un tout, sur un accord programmatique complètement farfelu.
Mais, dans quel sens ?
Mais un accord programmatique qui allie des contraires. Alors, où on a renoncé au nucléaire, où on a renoncé... mais surtout, ce qui me paraît important, moi, c'est l'évolution du Parti socialiste, en réalité, depuis 8 ans. Ce n'est pas un hasard. Il y a une logique à ça. Il y a une logique. On a vu progressivement que la social-démocratie n'arrivait pas à s'installer en France telle qu'elle est connue en, en Allemagne, etc. Il n'y a pas d'appel aux sociaux-démocrates en France. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Hollande l'avait sérieusement senti lorsqu'il a annoncé sa social-démocratie. Après,
qu'il avait
il n'a eu que
Hollande,
le 14 janvier, bah, il avait parlé du mot sociographie. Bah, oui,
il avait dit le mot.
Non,
oui.
C'est trop facile. Il avait dit le mot. Oui, et d'accord. Nous, nous trouverions. Bon. Attendez, je finis. Nous, nous trouverions que le mot social-démocratie, c'était le mot le plus facile. Et ben, pas au Parti socialiste, où il y avait depuis le début beaucoup d'opposants à ça. Ce sont les frondeurs. Ce sont les frondeurs qu'on retrouve d'ailleurs
derrière Mélenchon.
Et ce sont les frondeurs qu'on retrouve derrière aussi le négociateur socialiste qui a fait cet accord.
Il arrive,
bon,
oui.
C'est un accord qui a beaucoup stupéfié les gens, mais qui marque, à mon avis, puisque vous me demandez d'aller vite, la fin d'un certain parti socialiste qui ne s'en remettra pas. Oui. Quelles que soient les volontés d'états généraux, les rassemblements, voilà.
Gérard Carrère, oui, tandis que vient d'arriver Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel.
Il y a une chose qui est de toute façon déterminante, aussi bien dans l'ordre militaire, cher Charles, que dans l'ordre politique, c'est le nombre. Et je vais faire juste une parenthèse militaire. Si les Russes ont du mal dans la bataille, dans la guerre d'Ukraine, c'est parce qu'ils n'ont pas mis le nombre. Ils n'ont pas assez d'hommes, on en a souvent parlé avec Charles, on en parle entre nous. Ils n'ont pas assez d'hommes sur le terrain, contrairement aux Américains qui mettent... Bon, oui. Je ferme
et
la parenthèse.
On a fait le parallèle avec le général Schwarzkopf.
Mais je fais la parenthèse maintenant, je reviens aux politiques. Pourquoi tout ce qui s'est passé depuis le premier tour de l'élection était contenu dans un nombre, un seul nombre, qui était 22% pour Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. À partir du moment où un homme qui se réclame, même s'il est de l'extrême gauche, mais il se réclame aujourd'hui de la gauche, il joue le Ramina Grobis de la gauche, mais cet homme-là, il a fait le trou électoralement. À partir de là, tous les autres qui ont été enfoncés électoralement étaient obligés de se rallier à lui. Et on peut mettre de là-dedans de la morale, de l'immoral, tout ce qu'on veut. C'était fatal qu'il en soit ainsi. Et il va dominer le groupe. C'est lui qui a réparti les investitures. C'est lui qui va avoir dans le groupe parlementaire, ou dans l'intergroupe parlementaire de gauche, il aura les deux tiers ou une grosse moitié des députés. Il en aura peut-être plus de 100. Simplement sur la France insoumise, et les autres se partageront par petits bouts les 100 autres.
Une pause et on revient avec Catherine Ney et Charles Villeneuve dans Les Grandes Voix, tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Avec les arrivées à l'Elysée de François Bayrou, Manuel Valls, Agnès Pannier-Runacher, Amélie de Montchalin, Jean-Baptiste Djebbari, Éric Dupond-Moretti et Anne Hidalgo à l'instant. Catherine Ney, Charles Villeneuve, un mot sur la gauche avant de parler de l'Ukraine.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai, on peut dire que Mélenchon a réussi son coup, mais il l'a d'autant plus réussi qu'on oublie que c'est Marine Le Pen qui est arrivée au deuxième tour avec un score très important. Donc, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où on parle de l'accord de la droite, de l'accord de la gauche, et elle ne mène pas campagne. Elle laisse ses électeurs comme des orphelins.
Ouais.
Et donc, c'est très dangereux. Parce que certains vont dire, après tout, pourquoi vous voyez, les extrêmes rejoignent les extrêmes. Je trouve que c'est une chance aussi pour Mélenchon. Et la deuxième chose, c'est qu'au moment où il est un nouveau Mitterrand qui fait l'union de la gauche, eh ben, il renonce à se présenter. Et pourquoi il se renonce à se présenter à Marseille? parce que ça le fatigue d'aller à Marseille et qu'il ne pouvait pas changer de circonscription. Parce que lui aussi, là, il fait beaucoup d'esbrouf et tout ça, mais il va manquer. Il va manquer dans l'hémicycle parce que c'était lui le leader. Et ce n'est pas Quatennens ou les autres, enfin voilà, qui peuvent le remplacer tout de suite.
Bon, Catherine, un mot sur le RN.
Oui.
Moi, j'ai la conviction, et je ne suis pas tout seul,
que
Marine Le Pen a déjà baissé les bras pour les législatives.
Oui. Oui.
Elle sait que les législatives sont une élection qui est très défavorable à son parti.
Oui, mais elle pouvait quand même gagner une vingtaine de
députés. Oui, mais elle aura peut-être une quinzaine de députés ou une vingtaine.
Mais plus que ça, si elle s'est débattue.
Elle en jouera.
Mais elle jouera, mais elle en jouera petit
pour se victimiser alors qu'elle n'aura pas fait campagne.
Ne parlez pas en même temps. Monsieur Villeneuve, s'il vous plaît.
Non, mais le Rassemblement, tu parlais du Rassemblement national. Elle se coupe de toute alliance.
Oui. Ah oui.
Or, le scrutin majoritaire oblige à l'alliance. Elle n'a aucune alliance. Elle a même refusé Reconquête. C'est, à mon avis, une erreur.
Suicidaire.
Mais c'était la seule alliance possible. Hein.
Oui.
Voilà. Oui, mais c'est aussi la seule alliance mortelle.
Et elle aura 15
députés. C'était l'alliance mortelle pour elle, à cause
mais
de
non,
Marion Maréchal.
Mais non, ce n'est pas une alliance mortelle. Elle est déjà, de toute façon, plombée. Je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre terme, de toute façon. Moi, en ce qui concerne, ce qui m'a frappé dans ceux des socialistes qui ont rejoint l'alliance avec Mélenchon, quand tu écoutes et que tu observes, ou quand tu dialogues avec Benoît Arrivé, le successeur, par exemple, le maire de Cherbourg, le successeur de Bernard Cazeneuve, avec Mathieu Klein à Nancy, qui est maire de Nancy, avec Nathalie Espéré de Rennes, tu t'aperçois que tous veulent renouer avec la tradition. Et ils sont nombreux chez les jeunes et les moins jeunes élus locaux à considérer qu'ils redonnent un espoir à un camp très affaibli, laminé par les présidentielles. Et eux, de toute façon, sont nostalgiques. Et les élus et les électeurs de gauche sont nostalgiques de l'Union, sont nostalgiques du programme commun. Et c'est la raison pour laquelle, notamment à travers l'Assemblée générale du Parti socialiste, ils sont majoritaires. Au sein du Parti socialiste.
Les jeunes générations sont pour l'accord.
Absolument.
Et il reste les vieux éléphants derrière.
Il reste les maires aussi de grandes villes qui ont des conseils municipaux avec des insoumis et qui donc ne peuvent pas rompre.
Viennent d'arriver plusieurs ministres, dont Elisabeth Borne et Alain Juppé, qu'on a vu. Je voudrais qu'on parle quand même quelques minutes de l'Ukraine avant de repartir à l'Élysée, rejoindre Arthur Delaborde et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. 72 jours de combat en Ukraine. On approche maintenant de cette date anniversaire du 9 mai, jour de la victoire pour la Russie qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette date, Charles Villeneuve? Qu'est-ce qui risque ou qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on est dans la tête de personne, mais on parle beaucoup de cette date de lundi prochain.
Ben parce que c'est donc le jour anniversaire de la capitulation nazie, et notamment par rapport le 9 mai, c'est le 8 mai la capitulation signée à Reims, et simplement réunie à Berlin, les soviétiques à l'époque, Staline, a à nouveau reçu la capitulation des nazis. C'est donc la grande victoire patriotique. Or, il est d'usage que le chef d'État de la Russie annonce de toute façon quelque chose de très positif. Or là, on est dans la guerre avec l'Ukraine. Or, quelle victoire militaire peut afficher
Poutine?
Aucun, de toute façon. Mariupol, pas suffisant. Et donc, toutes les chancelleries, les grandes chancelleries diplomatiques, et notamment aux États-Unis, pensent qu'il peut annoncer le fait que de l'opération spéciale, on passe à la guerre totale. Et la guerre totale veut dire une mobilisation générale, c'est-à-dire la mobilisation de 2 millions de réservistes pour renforcer la masse de manœuvre en Ukraine. Tout à l'heure, Gérard disait que de toute façon, ils n'ont pas mis assez le nombre, et c'est vrai. Ils sont en déficit du nombre. Et donc, moi, je trouve ça assez invraisemblable. Mais sauf que, et vous aviez posé la question dans votre présentation de l'émission, c'est que est-ce que c'est de plus en plus un affrontement entre les États-Unis,
Biden et
la Russie? Bien évidemment, rappelez-vous simplement une chose, c'est que le président Biden est allé en Pologne et derrière, une véritable meute, si vous voulez, de la plupart de ses ministres, a commencé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la Chambre des représentants, qui est venu jusqu'à Kiev,
qui est un
le secrétaire d'État
qui faisait
Blinken,
campagne pour les midterms,
elle est venue à...
Mais c'est un symbole.
Bon,
c'est
un symbole.
Non, mais c'est une déviation, si vous voulez, de toute façon. On ne parle pas des midterms. Et puis surtout le ministre de la Défense qui a accompagné Anthony Blinken, Austin, qui est un Marines, qui est le ministre de la Défense, et qui lui a dit une phrase qui est très caractéristique de cet affrontement entre Washington et Moscou. Il faut empêcher dorénavant Poutine de recommencer ce qu'il a fait en Ukraine.
Les Américains, je les connais bien, sont souvent lents à démarrer la machine. On l'avait vu lors de la Première Guerre mondiale, il a fallu un certain temps, pour des tas de raisons d'ailleurs, sur lesquelles je n'entre pas. Mais on a vu la même chose au moment de la Deuxième Guerre mondiale. On disait, mais que font les Américains, etc. Mais quand ils ont pris la décision d'y aller, ils y vont. Ils y vont avec et tout ce que ça comporte. Et ils mettent le paquet. Or là, effectivement, mais moi j'avoue que je suis sans doute...
20 milliards sur les armes.
Je pense qu'il y a de quoi avoir un peu peur, effectivement. Voilà. Parce que quand j'entends l'un des plus brillants, il a eu des problèmes personnels, il a dû quitter l'armée, mais quand même il était l'un des plus brillants esprits de l'armée américaine, le général David Petraeus, en Afghanistan et en Irak, quand il dit, j'ai noté sa phrase, « L'Ukraine maintenant peut gagner la guerre », Petraeus, il incarne le Pentagone, le haut commandement, les généraux américains, la machine de guerre américaine. S'il dit ça, c'est qu'il le pense.
C'est ce qu'a dit Austin différemment, hein, le ministre de la Défense.
Et s'il le pense, il peut y avoir qu'escalade, et du coup,
donc,
il ne peut y avoir...
Donc, c'est devenu une guerre Amérique-Russie.
Et la guerre
le seul problème, c'est... nous sommes Européens. Donc, on a l'impression, à la fois, vous rappelez, au début, on s'est dit, voilà, cette Ukraine, ça a renoué entre nous le sentiment européen. Bon, en réalité, ça a renoué un sentiment européen, peut-être, mais derrière l'OTAN, c'est-à-dire derrière l'Amérique. Et là, complètement, il faut bien dire, inféodé à la politique américaine. Donc, c'est bien tout le problème. Cette guerre, elle est peut-être mondiale, mais elle se passe sur notre territoire. Oui. Alors on peut être quand même
Très inquiet.
On peut être inquiet.
Et la question qui se pose maintenant, c'est que nous, Européens, notamment à travers le président de l'Europe, c'est-à-dire le chef d'État français, Emmanuel Macron, est-ce que nous osons prendre réellement la parole ? À partir du moment où nous livrons des canons César, qu'il n'y a rien de mieux de toute façon sur le plan de l'artillerie à l'heure actuelle, dans tout l'armement des Occidentaux, et les Allemands vont livrer des chars léopards, nous ne savons pas trop où nous allons. Or, ça se passe sur le territoire européen.
10h47, j'avance beaucoup là. 10h47, et c'est à l'Élysée que nous allons dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney, consacrée à cette cérémonie d'investiture que vous allez pouvoir suivre sur Europe 1 à partir de 11h. On part directement dans la cour de l'Élysée. Arthur Delaborde, deux anciens présidents de la République viennent d'arriver.
Oui, exactement. Nicolas Sarkozy et François Hollande. On a ici de nombreuses personnalités politiques. À leur côté, il y a évidemment le Premier ministre Jean Castex, actuel Premier ministre. D'autres membres du gouvernement comme Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Roselyne Bachelot. Il y a aussi deux anciens Premiers ministres, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang, d'anciens membres des Républicains qui ont rejoint Emmanuel Macron récemment, comme Christian Estrosi et Éric Woerth. On a de nombreux invités ici, mais Emmanuel Macron a donc choisi de mettre à l'honneur, parmi les 450 invités, des catégories qui ont souffert pendant les crises qui ont traversé le quinquennat, et notamment les soignants. Il y a aussi des responsables d'associations, des sportifs et des jeunes, par exemple une classe de 6e de l'Oise, des collégiens donc invités à cette cérémonie. Et puis, il y a aussi beaucoup de journalistes, près de 300 journalistes accrédités ici, dont environ un tiers de journalistes étrangers.
Dont un certain Arthur Delaborde. Merci Arthur. Jacques Serret est dans la salle des fêtes. Jacques, ça commence à y avoir beaucoup de monde là.
Oui, tous ces invités qu'a énuméré Arthur sont maintenant entrés dans la salle des fêtes. Nous sommes à quelques minutes du début de cette cérémonie. Alors l'ambiance est aux échanges, aux embrassades, et on voit parfois certaines scènes un peu étonnantes qu'on n'aurait pas pu voir par le passé. Par exemple, Manuel Valls qui discute avec Éric Woerth ici, Alain Juppé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est en train d'échanger les sous mes yeux avec Roselyne Bachelot, actuellement.
Jacques, parlez plus fort parce qu'il y a tellement de monde autour de vous que...
Ah. Désolé, voilà.
Voilà, c'est
donc,
mieux.
Voilà. Donc Nicolas Sarkozy qui échange avec Roselyne Bachelot actuellement sous nos yeux. Donc voilà, tout le monde échange, on se prend en photo. Voilà pour l'ambiance ici sous les dorures de la République dans cette très grande, très vaste salle des fêtes de l'Élysée où on attend le président d'ici quelques minutes.
Merci Jacques Seret et Arthur Delaborde qu'on retrouvera dans la spéciale à partir de 11h. Les grandes voix... vous discutez parce que vous voyez les gens arriver. On est dans cette grande salle des fêtes où j'imagine que chacun scrute celui qui pourrait être le premier ministrable. Donc, comment est-ce que vous voyez cette ambiance, Charles Villeneuve ?
Moi, j'ai trouvé que la proximité entre quelques ministres, notamment femmes d'Elisabeth Borne, peut nous faire croire que c'est la favorite. En tout cas, c'est la mienne.
Ce sont des signes, Catherine Ney, comme ça qu'on peut voir.
Je ne sais pas, mais on a dit qu'il fallait que ça soit une femme. Qu'il fallait que ce soit une femme. Bon, alors, s'il faut que ce soit une femme, si on fait le calcul de toutes celles qui sont capables... Parce que le président avait dit qu'il faudrait quelqu'un qui ait des compétences écologiques, des compétences sur la vie économique...
Sociale.
Et sociale. Elle coche absolument toutes les cases, oui. Parce qu'elle a été ministre. Bon,
et elle a fait passer plusieurs réformes.
Elle a fait passer, mais il oublie la chose. C'est aussi quelqu'un qui, devant l'Assemblée, surtout si elle est fatiguée, si elle est importante, devra une capacité d'entraînement, de parler fort, d'incarner une force. Et, bon, et ça, je me dis, peut-être, mais c'est très difficile. C'est très difficile pour une femme, c'est très difficile... Je ne dis pas ses compétences, de parler à la tribune, d'asseoir un discours, de lancer des choses. C'est très difficile. Et vous savez très bien, quand elle vient être interviewée, elle est quand même passablement ennuyeuse et parle d'une...
Ben oui. Elle n'a pas beaucoup
Michel
de charisme.
Voilà. Non,
elle n'a pas beaucoup de charisme. Alors, est-ce que c'est ça, après tout, que le président peut chercher ? Quelqu'un qui ne
lui fasse pas don, trop la lumière.
Qui soit, mais qui soit sur un secteur,
oui, mais après
tout,
travail, hein.
Comme notre ami Cassex.
Mais qui a été, donc il a dit que c'était le meilleur premier ministre exceptionnel.
Alors, je vous rappelle que le général de Gaulle, lorsqu'il a été réélu, a maintenu son premier ministre au pouvoir, Georges Pompidou. Alors là, je crois que ça n'est pas possible si on veut marquer un renouveau, mais moi, je n'exclus pas ça.
Mais Michel, jusqu'à présent, Catherine, il n'a pas accordé une importance considérable à la voix du premier ministre à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas été stratégique
réflexion. Oui, mais dans l'image. Aux questions d'actualité.
Il ne faut pas se parler l'un sur l'autre.
Oui, pardon. Oui. Dans les questions d'actualité, avec une Assemblée qui risque d'être plus houleuse que la précédente. Eh bien, tu voyais, Édouard Philippe, il avait une façon de répondre à l'opposition dont la majorité était fière. Eh bien, on s'est moqué au départ de Jean Castex, mais après, il avait trouvé un ton. Et je veux dire, il existait. Et il avait derrière lui et le gouvernement et la majorité qui trouvait qu'il faisait bien le taf. Donc, pour une femme, moi, je dis que c'est plus difficile. Elle y arrivera peut-être. Mais c'est plus difficile. Et c'est très important, les questions d'actualité. Parce que si elle n'est pas bonne, les gens diront il a choisi une femme
concernant,
qui n'était pas capable.
Concernant l'omniprésence à l'Assemblée nationale du Premier ministre Édouard Philippe, ça ne lui a pas porté tellement chance.
Voilà,
finalement.
Moi, j'ai rien dit. Ravi parce que j'ai rien vu. Oui, j'ai regardé attentivement les femmes et j'ai regardé.
Qu'est-ce que vous pensez de François Hollande avec Nicolas Sarkozy côte à côte? Ils parlent pas beaucoup.
Avec un sourire, ils sont souris. J'ai remarqué qu'ils sont souris, ce qui est quand même.
On en voit le gros plan là.
Oui, c'est sympathique.
Ils ne se disent rien. Enfin, cela dit, Sarkozy parle à Roselyne Bachelot qui est juste à côté.
Non, mais ils sont arrivés en s'adressant la parole.
Cette émission spéciale ne fait que commencer. Merci les grandes voix. Merci Catherine, Michel, Charles et Gérard. Thierry Dagiral, mon cher Thierry, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour les grandes voix.
Je vous laisse la place pour cette grande spéciale investiture.
En effet, on va vous faire vivre ce matin sur Europe 1 cette cérémonie d'investiture, cérémonie républicaine avec un rituel très précis. On sera dans la salle des fêtes de l'Élysée avec nos équipes sur place, au plus près de l'événement. On va écouter puis analyser le discours du président Macron qui généralement donne le cap de ce nouveau quinquennat. On sera bien sûr également aux Invalides quand seront tirés les 21 coups de canon. Plusieurs invités pour cette édition spéciale, Charles Villeneuve et Catherine Ney vont rester avec nous. Il y aura le politologue Jérôme Sainte-Marie, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, l'ancien secrétaire général de l'Élysée Jean-Pierre Jouyet, et le général Benteja, ancien chef d'état-major des armées. Il a été au plus près de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Édition spéciale jusqu'à 13h. À tout de suite.